Chapitre 4. Balkis. Le tableau que représentait en ce moment la salle basse était digne, sans contredit, de tenter les pinceaux d'un artiste habile. Cette pièce, très vaste, nous le répétons, était tendue d'une vieille tapisserie de style gothique, représentant la reine Balkis offrant des présents au roi Salomon. Le dessinateur, naïf, sous les maquettes duquel cette tapisserie avait été exécutée, s'était ingénié à donner à la plupart de ses personnages des figures rébarbatives et des mines farouches. Salomon lui-même, malgré son costume oriental, ressemblait plus à un capitaine de routier qu'à ce roi des Juifs dont la sagesse et la beauté sont devenues proverbiales. Les seigneurs de sa cour avaient l'air d'autant de Miquelets et de Soudards. Les dames de Jérusalem affectaient l'allure des ribaudes un peu plus qu'éveillées. La reine Balkis, seule, au milieu de ce bizarre entourage, offrait des traits fins et doux, remplis de charme et de régularité. Son beau visage, sa physionomie expressive, attirait et séduisait le regard. Mais une autre chose encore, une étrange et prodigieuse ressemblance, dont nous parlerons tout à l'heure, rendait plus que tout le reste cette figure digne d'attention et d'intérêt. Il n'y avait point de tapis sur le plancher. Les solives du plafond, très rapprochées les unes des autres, étaient peintes alternativement en brun sombre et en vermillon. Le lit, enfoncé dans une profonde alcôve, était en chêne sculpté, ainsi que les sièges et une haute et lourde armoire. Les vives flammes de la cheminée et la lueur des deux bougies et d'une petite lampe éclairaient surabondamment ce gothique mobilier et en faisaient ressortir les moindres détails. Nous savons déjà que Jacques, auprès du lit, soulevait avec précaution la tête de son maître. Ce valet était un garçon de 25 ans environ, à la figure franche et décidée. À travers la boue qui souillait ses vêtements, on distinguait les couleurs de sa livrée or et rouge. Enfin, Jeanne, à deux pas de Jacques, regardait avec effroi et compassion la blessure du chevalier. C'est à propos de Jeanne que nous parlions, il n'y a qu'un instant, d'une ressemblance étrange. En effet, par un de ces jeux fortuits du hasard, qui sont plus fréquents qu'on ne l'imagine, la tête de la jeune fille était la reproduction exacte du visage de la reine Balkis. C'étaient les mêmes cheveux blonds, merveilleusement abondants et naturellement bouclés. C'étaient les mêmes yeux, d'un bleu sombre, fendus en amande à la manière orientale et frangés de longs cils d'ébène. C'était le même ovale, au teint pareil et des lèvres semblables. Enfin, Mignard, le peintre à la mode, n'aurait point su produire un portrait plus ressemblant en transportant sur une de ses toiles la délicieuse figure de Jeanne. Et cependant, Jeanne avait 17 ans à peine, et la tapisserie en comptait plus de 200. « Mon Dieu !» répéta le valet. « Je ne sais en vérité comment faire arrêter le sang. Voyez comme il coule, mademoiselle. Mon pauvre maître va perdre ainsi peu à peu ses forces et sa vie. » « Avec l'aide de Dieu, » répondit Jeanne, « nous porterons remède au mal. » Elle ouvrit la grande armoire et elle en tira un large morceau de toile fine qu'elle tendit à Jacques en lui disant « Préparez des bandes avec cette toile. Moi, je vais chercher ce qu'il faut. » Et elle sortit de la chambre. Elle y revint au bout d'un instant en apportant une petite tasse remplie d'eau salée. Avec cette eau, elle humecta les compresses que Jacques venait d'achever. Elle les appliqua sur la blessure et les assujettit solidement avec un bandage. Le sang s'arrêta immédiatement. « Vous voyez ?» dit Jeanne. En même temps, le chevalier, comme s'il eût éprouvé un bien-être sensible, poussa un long soupir qui n'avait rien de douloureux. Ses yeux s'entr'ouvrirent, mais ils se refermèrent aussitôt, blessés par l'éclatante lumière des bougies et du feu. L'évanouissement continuait. Cependant, une légère teinte rosée revenait peu à peu colorer les joues pâlies. « Il n'y a aucun danger, » fit la jeune fille. « Quelques heures de sommeil guériront votre maître. » Puis, après avoir satisfait au devoir de cette hospitalité que sa mère lui reprochait si amèrement, Jeanne céda quelque peu à une curiosité bien naturelle et questionna Jacques sur les causes dont elle connaissait déjà les tristes résultats. Le valet lui raconta avec les plus grands détails tout ce que nos lecteurs savent déjà. « Mais, » demanda Jeanne, « quel était donc le motif si pressant qui poussait votre maître à braver ainsi les ténèbres et la tempête ?» Jacques prit un air mystérieux et répondit « J'ignore complètement ce motif, mademoiselle. Mon maître ne me doit pas de compte. J'obéis sans interroger. » Puis il ajouta, « Mademoiselle rendrait à monsieur le chevalier un important service en me prêtant une petite lanterne. »« Pourquoi faire ?» demanda Jeanne. « Pour aller chercher sur la route, au milieu des débris du carrosse, quelque objet dont je sais que mon maître déplorerait vivement la perte. » Jeanne ouvrit de nouveau l'armoire. Elle y prit une lanterne en corne transparente et elle la donna à Jacques, qui l'alluma aussitôt et sortit en laissant ouverte la porte du vestibule. Il ne tarda guère à revenir, apportant une paire de pistolets montés en argent et du plus beau travail, et un petit coffret d'écailles rouges, incrusté de nacre, d'ivoire et d'or. « Est-ce tout ?» demanda Jeanne. « Pas encore, » répliqua le valet, qui ressortit aussitôt. Sa seconde absence fut plus longue que la première. Pendant les quelques minutes de sa durée, Jeanne s'occupa à regarder les armoiries gravées en relief sur un écusson d'or au milieu du coffret d'écailles et reproduites en argent sur le pommeau des pistolets. Ces armoiries étaient de celles que, dans le langage héraldique, on appelle « armes parlantes ». Elles figuraient un tremble d'or en chant de gueule avec cette devise « Tremblait, ne tremble ». Jacques rentra. Il pliait sous le fardeau d'une valise en cuir de dimension moyenne qu'il portait sur son épaule. Il mit un genou en terre afin de se débarrasser plus facilement de son fardeau. Mais telle en était la pesanteur qu'il s'échappa de ses mains et tomba lourdement sur le plancher avec un fracas retentissant. Sans doute, cette valise avait souffert d'un choc violent dans l'accident arrivé au carrosse, ou bien son cuir était déjà vieux et vermoulu par place, toujours est-il qu'une large fente se manifesta dans l'un des angles et qu'une multitude de pièces d'or s'éparpillèrent de tous les côtés dans la chambre avec un joli petit tintement métallique. « Que d'or !» s'écria Jeanne involontairement, tandis que ses pupilles se dilataient à la vue du précieux métal, mais sans qu'une pensée cupide vînt même effleurer son esprit. « Oui, » répondit Jacques en souriant, « et de bien bel or, tout fraîchement sorti des balanciers. Voyez, mademoiselle, voyez !» Et le valet, comme pour appuyer ses paroles, ramassa une poignée de pièces d'or qu'il fit scintiller pendant un instant sous la nappe de clarté des bougies et qu'il tendit ensuite à la jeune fille. Jeanne les prit et les examina curieusement. C'étaient en effet de belles pièces, parfaitement neuves, frappé à toutes les effigies européennes. Il y avait des louis français de 24 francs et des louis de 48. Il y avait des quadruples espagnols, des guinées anglaises, des ducats allemands et bien d'autres monnaies encore qu'il serait trop long de citer. « Est-il bien possible que tout cela appartienne à votre maître ?» s'écria Jeanne qui n'avait jamais vu, même en rêve, une si forte somme. « Tout cela ?» répéta le valet comme s'il ne se rendait pas bien compte du sens des paroles que la jeune fille venait de lui adresser. Elle recommença sa question. « Mais, mademoiselle, répondit Jacques, mon maître possède 20 fois, 100 fois, 1000 fois plus d'or que vous n'en voyez là. Peut-être que dans 6 semaines il ne restera pas 25 louis du contenu de cette valise. « Il est donc bien riche, votre maître ?» murmura Jeanne, stupéfaite. « Si riche, répliqua le valet, qu'on peut dire de lui en toute assurance qu'il ne connaît pas sa fortune. » Chapitre 5. La mère et la fille. Jeanne avait annoncé, nous le savons, que quelques heures de sommeil guériraient le blessé. Mais Jeanne n'était point un médecin bien habile et ses prévisions ne devaient pas se réaliser. Soit que le sang eût été arrêté trop vite, soit qu'une contusion violente eût amené des désordres intérieurs, le chevalier ne revint à lui-même que pour tomber dans le premier accès d'une fièvre violente et l'ange sinistre du délire vint s'asseoir à son chevet. Jeanne avait quitté la salle basse après avoir rapporté au valet du pain, du vin et un peu de viande froide. Elle ignora donc pendant toute la nuit ce qui se passait. Quand elle entra dans la chambre de sa mère, celle-ci était endormie, ou du moins feignait de l'être, et Jeanne gagna sans bruit une petite pièce attenante à cette chambre et dans laquelle elle couchait. Le lendemain, elle se leva dès le point du jour afin d'aller savoir des nouvelles de son blessé. Elle espérait, en marchant sur la pointe des pieds, passer inaperçue, comme la veille au soir, auprès du lit de sa mère. Mais cette dernière, assise sur son séant, la guettait au passage comme le tiercelet guette sa proie. Elle l'arrêta brusquement en lui disant « Venez un peu ici, je vous prie. J'ai à vous parler, mademoiselle. » Jeanne s'approcha et baisa la main de sa mère en lui demandant comment elle avait dormi. « Très mal, » répondit la malade, « grâce à vous. » Jeanne baissa la tête et ne répondit point. « Oui, » poursuivit sa mère, « grâce à vous, qui abrégez ma vie par vos folles désobéissances et votre caractère indomptable. Grâce à vous, qui ne voulez pas vous souvenir que chacune de vos prodigalités coupables me coûte un jour de mon existence, que nous n'avons plus rien à nous, que rien ici ne nous appartient plus, et que l'agonie de la faim précédera bientôt pour moi celle de la maladie, puisque chaque jour vous vous obstinez à distraire un morceau du pain qui nous reste pour des étrangers qui n'en ont pas besoin. « Oh, ma mère !» murmura Jeanne, suffoquée par les larmes. « Pardonnez-moi, je vous en supplie. Je ne savais pas mal faire. » « Enfin, » poursuivit la malade, « c'est fait, c'est fini, n'en parlons plus. Mais j'espère que ce matin même, tout à l'heure, à l'instant, vous allez mettre dehors ces gens que vous avez accueillis si mal à propos et dont la présence dans ma maison me fatigue et m'importune. « Oui, ma mère, » balbutia Jeanne. « Allez donc, et hâtez-vous. N'oubliez point que j'ai besoin de vous, et ne sacrifiez pas plus longtemps votre mère à des inconnus. » « Oui, ma mère, » répondit de nouveau la jeune fille. Puis elle quitta la chambre et descendit lentement l'escalier, cherchant comment elle pourrait accomplir la triste mission dont on venait de la charger. Mais elle ne trouva rien, et quand elle atteignit le seuil de la salle basse, elle ignorait encore de quelles paroles elle allait se servir pour enjoindre aux malheureux blessés d'aller chercher ailleurs un asile plus hospitalier. Son cœur battait violemment. Cependant, un vague espoir la soutenait encore. C'était l'espoir de trouver le chevalier de la Tremblay, debout et prêt à partir. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Jacques à voix basse. La jeune fille ouvrit la porte et son premier regard se tourna vers l'alcôve. Le chevalier était toujours couché et semblait dormir d'un sommeil lourd et profond. Seulement, une pâleur plus grande encore que celle de la veille avait envahi son visage. Jeanne comprit aussitôt que l'état de Raoul était empiré. « La nuit a été mauvaise, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Effrayante, » répliqua le valet. « Que s'est-il donc passé ? » ?»«
Presque aussitôt après votre départ, mademoiselle, une fièvre ardente s'est emparée de mon pauvre maître. Il avait le délire, il ne me reconnaissait plus. Il parlait sans cesse, et il disait tout haut les choses du monde les plus insensées et les plus incohérentes. Puis, peu à peu, un abattement complet est venu succéder à cette agitation terrible. Et enfin, depuis 2 heures environ, monsieur le chevalier est plongé dans un sommeil qui dure encore.
« Que faire ? » murmura Jeanne.
« J'attendais que mademoiselle fût descendue pour courir chercher un médecin à Saint-Germain. »«
Oui, » fit la jeune fille. « Allez, vous avez raison. »
« Autant que j'ai pu juger de la distance hier au soir, » continua le valet, « il ne doit pas y avoir bien loin d'ici à la ville. »
« Avant 1 heure, en vous attendant un peu, vous pourrez être de retour. »«
Oh, je ne perdrai pas un instant !» s'écria Jacques,
et joignant l'action aux paroles, il se hâta d'ouvrir la porte du vestibule, que Jeanne referma derrière lui, aussitôt qu'il eut franchi les degrés. Ceci fait, la jeune fille revint lentement sur ses pas, en réfléchissant à tout ce qu'il y avait de triste et de douloureux dans sa position. Qu'allait-elle dire à sa mère, en effet, et comment s'excuser d'avoir ainsi transgressé ses ordres absolus. Et d'un autre côté, comment aurait-il été possible d'obéir à de tels ordres? Comment dire à ce malheureux gentilhomme blessé, mourant peut-être, « Éveillez-vous et quittez cette maison où l'on ne veut pas vous garder plus longtemps. » Jeanne préférait de beaucoup braver la colère de sa mère et subir ses injustes reproches. Cependant, avant d'aller affronter l'orage, elle rentra dans la salle basse afin de voir si monsieur de la Tremblay ne se réveillait point. Raoul dormait toujours. Ses cheveux en désordre couvraient à demi son front et en faisaient encore ressortir la blancheur presque féminine. Ses sourcils, contractés et ses lèvres frémissantes, révélaient une souffrance qui subsistait malgré le sommeil. Nous savons déjà que Raoul était beau. En ce moment, il y avait dans sa beauté quelque chose de si touchant que le cœur d'une femme ne pouvait guère résister, à son aspect, à un sentiment de tendre compassion. Jeanne le regarda longtemps. Quand elle remonta auprès de sa mère, elle était heureuse, à son insu,
de songer qu'elle allait avoir à souffrir pour ce jeune homme si pâle et si beau. Presque toujours, ô fille d'Ève, le dévouement dans votre cœur montre le chemin à l'amour. « Eh bien !» demanda vivement la malade aussitôt que Jeanne fut entrée dans sa chambre. « Eh bien, sont-ils partis ?»«
Non, ma mère, » répondit Jeanne avec fermeté.
« Comment non ? Mais j'ai entendu, ce me semble, il n'y a qu'un instant, ouvrir et refermer la porte de la rue. »
« Vous ne vous êtes pas trompé. Le valet du gentilhomme allait à Saint-Germain.
Chercher une voiture, sans doute, pour emmener son maître.
Non, chercher un médecin pour soigner le chevalier mourant.
Un médecin ? S'écria la malade avec un brusque soubresaut. Un médecin ? Ah ça, mais ils vont donc s'éterniser dans ma maison, ces deux aventuriers ? Un médecin pour une contusion ? Pour une égratignure ? Quand moi, j'agonise lentement sans en demander un. Cela ne fait-il pas pitié ? Et les visites de ce médecin, qui donc les paiera, s'il vous plaît ?
Oh, soyez tranquille, ma mère, répondit Jeanne amèrement. Ce gentilhomme ne vous coûtera rien. Il est riche.
Riche ? Qu'en savez-vous ? Vous le croyez parce que lui ou son valet vous l'ont dit. Ignorez-vous donc que les hommes sont menteurs et que ce sont les plus pauvres qui parlent le plus de la richesse ?
On ne m'a rien dit, ma mère. J'ai vu.
Quoi ? Qu'as-tu vu ?
L'or de cet étranger ?
Quelques misérables louis, sans doute.
Des milliers de louis, ma mère ! Une valise pleine, et si lourde que le valet ployait en la portant,
et qu'elle s'est crevée en roulant de son épaule sur le plancher.
Et vous avez tenu de cet or dans vos mains ? Vous en avez touché ?
J'en ai tenu dans mes mains, j'en ai touché, oui, ma mère.
C'est bien vrai, au moins, mon enfant, ce que tu me dis là ?
Fit la malade en changeant tout à coup de ton et en adoucissant, comme par enchantement, son accent rude et brusque.
« Rien n'est plus vrai, » répliqua Jeanne.
« Et d'ailleurs, je ne crois pas, ma mère, vous avoir jamais menti. »«
Eh bien, » poursuivit la malade, « toute réflexion faite, tu as bien agi, mon enfant.
J'avais, sans trop savoir pourquoi, je l'avoue, beaucoup de préventions contre ce voyageur blessé. Mais je sens que ces préventions s'effacent, et que ton opinion modifie absolument la mienne. »
« Est-il jeune, ce voyageur ?»«
Oui, ma mère, il le paraît, du moins. »«
Est-il beau ?»
Jeanne rougit involontairement. Cependant, elle répondit.
« Ses traits m'ont semblé d'une régularité parfaite, mais je ne l'ai vu qu'endormi, ou sans connaissance. Et d'ailleurs, sa pâleur est si grande qu'elle doit le défigurer beaucoup. »«
Mais enfin, tel qu'il est !» murmura la malade avec insistance.
« Tel qu'il est, il est bien !» acheva la jeune fille.
« Tu le crois gentilhomme ?
Je ne doute point qu'il ne le soit.
Sais-tu quel est son nom ?
Son valet l'a appelé devant moi le chevalier Raoul de la Tremblay.
Que Dieu lui envoie une prompte guérison à ce beau chevalier, fit la malade avec un sourire étrange. Je vais prier ma sainte patronne et commencer une neuvaine à son intention. En ce moment, on frappa à la porte de la maison. Jeanne alla regarder par la fenêtre. C'était Jacques qui revenait avec le médecin. La jeune fille se hâta de descendre afin d'ouvrir au nouveau venu, qu'elle introduisit sans retard auprès du chevalier. Raoul s'éveilla au moment où le médecin, Jeanne et le valet entraient dans sa chambre. Il ouvrit les yeux, se souleva sur son coude et promena tout autour de lui un regard vague et inexpressif. Puis il se laissa retomber en arrière et sa tête s'appuya de nouveau sur l'oreiller taché de sang. Évidemment, il n'avait ni la conscience de sa situation, ni celle du lieu dans lequel il se trouvait. Le médecin s'approcha du lit, prit la main inerte de Raoul, la souleva et appuya deux de ses doigts sur l'artère pour en interroger les battements. Ensuite, il dénoua les bandages assujettis par Jeanne et il regarda la blessure. La jeune fille et le valet suivaient tous ses mouvements avec une émotion pleine d'anxiété. Quand il eut achevé son long et minutieux examen, il secoua la tête d'une façon inquiétante.
« Il y a donc du danger ?» demanda Jeanne.
« J'en ai peur, » répondit-il. « Cependant, la blessure est peu profonde.
La blessure n'est rien et ne me préoccupe pas.
Alors que craignez-vous ? Une congestion au cerveau.
« Oh mon Dieu !» s'écria la jeune fille, instinctivement épouvantée de ces mots dont elle ne comprenait pas bien le sens.
« Oui, » poursuivit le médecin, « la secousse a été terrible, l'ébranlement nerveux est complet. Voyez la tonie du regard. Étudiez les fébriles pulsations du pouls. Je redoute une fièvre cérébrale et peut-être même le tétanos. Enfin, monsieur, qu'y a-t-il à faire? Je vais pratiquer une saignée. Et ensuite? Ensuite, nous verrons. Si le mal que vous redoutez se déclarait, serait-ce bientôt? Aujourd'hui même? Et quelle serait sa durée probable?
Selon toute apparence, le tétanos emporterait le malade en quelques heures.
La fièvre cérébrale agirait d'une façon moins foudroyante, et pendant 9 jours, on pourrait conserver un faible espoir.
Notons en passant que tout ceci se disait devant Raoul, mais que tel était l'état du jeune homme qu'il ne pouvait rien entendre et surtout rien comprendre des paroles qui venaient frapper son oreille.
Avez-vous besoin de quelque chose? Demanda Jeanne.
Dites-le-moi, monsieur, afin que je quitte cette chambre pour vous laisser agir.
J'ai besoin d'un bassin pour recevoir le sang et de bandes de toile pour comprimer le bras. Voilà tout.
La jeune fille donna ce qu'on lui demandait et sortit.
Chapitre 6. Madeleine de Chambard.
Le moment est venu, ce nous semble, d'apprendre à nos lecteurs ce qu'étaient Jeanne et sa mère. Les explications dans lesquelles nous allons entrer seront courtes. 30 ou 35 ans environ avant l'époque où se passent les faits que nous racontons, un certain Guillaume de Chambard, dernier rejeton d'une famille autrefois puissante mais dégénérée et devenue presque pauvre, avait reçu par héritage le domaine patrimonial du Petit Chastel et quelques maigres terres qui en dépendaient et constituaient un fief des plus médiocres. Ce Guillaume embrassa le métier des armes, mais comme son peu de biens ne lui permettait point d'accepter un régiment, il se fit officier de fortune et végéta dans des grades quasi subalternes. Il prit l'uniforme en dégoût et finit par renoncer au service. Il revint donc vivre paisiblement dans son fief du Petit Chastel, passant sa vie à pêcher à la ligne dans le beau bras de Seine qui coulait devant sa porte après avoir mis en mouvement les rouages énormes de la machine de Rénuin-Sualem et tuant de temps en temps un levreau ou un lapin dans le petit champ de luzerne qui attenait à son enclos. Sans doute ceci constituait un bonheur monotone et insignifiant. Mais enfin, c'était du bonheur, et Guillaume se laissait doucement bercer par le flot dormant de cette existence. Aussi, le diable, mécontent de voir sur la terre un homme qui ne se plaignait pas de son sort, ne tarda guère à venir se mêler des affaires de Guillaume. Il ne fallait pour bouleverser sa vie que lui mettre l'amour en tête. Le diable n'y manqua point. Guillaume, un jour qu'il était allé à Paris, s'amouracha d'une fort belle fille qui s'appelait Madeleine Aubry. Cette Madeleine, non repentie, outre qu'elle n'avait pas un sou vaillant, passait pour ne point faire profession d'une vertu bien farouche. Aussi Guillaume ne se proposait-il point tout d'abord comme épouseur, mais seulement comme amoureux. Par malheur, il avait affaire à une gaillarde rusée et qui connaissait merveilleusement bien son monde. Guillaume était de ceux dont l'Évangile a dit « Bienheureux les pauvres d'esprit ». Madeleine comprit tout le parti qu'on pouvait tirer de l'excessive candeur du bon gentilhomme. Pour la première fois de sa vie, elle se montra cruelle. Et, en même temps que ses rigueurs inaccoutumées la plaçaient dans l'esprit de Guillaume sur un piédestal de vertu, elle attisait le feu par 1000 coquetteries ingénieuses et raffinées. Le piège était habilement tendu. Guillaume devait y tomber, et il y tomba en effet. 3 mois ne s'étaient point écoulés qu'il offrit à Madeleine Aubry son nom qui était sonore, sa main qui était solide et son fief du Petit Chastel que nous connaissons déjà. Tout cela fut accepté comme bien on pense. Madeleine Aubry devint Madame de Chambard. En même temps que cette femme, le malheur entra dans la maison du pauvre Guillaume. Orgueil, désordre, intempérance, soif des plaisirs de toutes sortes, Madeleine avait tous les vices. Et Guillaume était à la fois trop faible et trop amoureux pour essayer de mettre une fin à ses passions diaboliques. Les humbles terres du Petit Chastel furent bientôt grevées d'hypothèques et s'en allèrent pièce à pièce. Sur ces entrefaites, Madeleine devint grosse et accoucha d'une fille qui fut nommée Jeanne.
La naissance de cet enfant ne changea rien ni au goût ni aux habitudes de la mère. Cependant, Guillaume était complètement ruiné. Il ne lui restait pour tout avoir que sa maison et une petite pension sur la cassette du roi. Son existence devint alors complètement intolérable. Chaque jour, Madeleine lui reprochait avec une amertume et des violences inouïes cette ruine et cette pauvreté dont elle était la cause. Guillaume succomba à la tâche et mourut de chagrin. Sa veuve était belle encore. Les ressources ne lui manquèrent pas, d'autant plus qu'elle ne reculait devant rien pour se procurer de l'argent. Et que si, jusqu'alors, elle n'avait pas commis de crime, c'est que l'occasion ne s'était pas présentée d'en commettre. Cela dura 5 ans. Au bout de ce temps, une maladie de langueur s'empara de Madeleine. Elle fut obligée d'abandonner Paris, où elle était allée se fixer, et de revenir habiter la maison du petit Chastel. Bientôt, elle ne quitta plus le lit. Quand fut épuisé l'argent de ses bijoux qu'elle avait vendus, elle fit venir un juif qui lui acheta sa maison, moyennant une somme modique, payée comptant, mais à condition qu'elle pourrait habiter le petit Chastel tant qu'elle vivrait. La somme dont il s'agit servit durant plusieurs années à l'entretien de la mère et de la fille. Les deux femmes vivaient seules, l'état de leur fortune ne leur aurait point permis de se faire servir, ne fût-ce que par une personne. Au moment où nous venons de faire connaissance avec la mère et avec la fille, l'argent donné par le juif touchait à sa fin. Aucune autre ressource ne se présentait, et la perspective des angoisses du besoin, jointe à ses souffrances continuelles, avait achevé d'aigrir et d'assombrir, outre mesure, le caractère de Madeleine. La pauvre Jeanne supportait avec une angélique patience les bourrasques impétueuses et les colères maternelles. Elle ployait la tête en silence et avec résignation, quoiqu'elle ne manquât ni d'énergie ni de fermeté. Quant à ses principes, elle ne les devait qu'à elle-même et au lointain conseil que son père lui avait donné dans sa première enfance. Mais elle avait une de ces natures si rares, en qui tout ce qui est bien et beau se grave profondément et sur lesquelles, au contraire, le mal glisse sans aucune trace. Jeanne, à qui sa mère n'avait jamais parlé de religion, si ce n'est peut-être d'une façon ironique et moqueuse, Jeanne était pieuse instinctivement. Elle avait lu l'Évangile avec un respect et une admiration sans bornes. Elle adorait Dieu dans tout ce qu'il avait produit, dans les eaux et les bois, dans les fleurs, dans les oiseaux, et cette dévotion si simple et en quelque sorte si primitive en valait, selon nous, bien une autre. Et maintenant que nous avons présenté à nos lecteurs deux des personnages importants de ce livre, reprenons, pour ne plus la quitter, la trame de notre récit.